Radio VSM, émission spéciale législative 2022.
Retour ici à Bayeux dans l'enceinte du restaurant L'Assiette Normande en compagnie de Bertrand Bouix et Valérie Harel. L'un ou l'autre sera élu député de la circonscription du Bessin et de la Côte de Nacre dimanche prochain. Vous l'avez forcément remarqué, Valérie Harel, Bertrand Bouix, il fait chaud. Il a fait chaud aujourd'hui, il fera encore plus chaud en cette fin de semaine. Un phénomène exceptionnel à cette époque de l'année qui intervient alors que notre département a été placé en vigilance sécheresse il y a presque un mois déjà. Le réchauffement global, le dérèglement climatique et les phénomènes extrêmes qui l'accompagnent, ils sont là, on les voit, ils ne sont évidemment pas sans conséquences. Est-ce que le climat ne devrait pas être la priorité numéro 1 du prochain quinquennat, Valérie Harel?
Ah bah oui, nous en tout cas on veut faire en sorte que d'aller vers cette bifurcation écologique et de mettre en place de décarboner aussi tout notre environnement. Enfin, on voit bien, on est en train d'aller dans le mur en étant sur toujours plus de consommation de charbon, enfin la fin des centrales. Ce que notait Monsieur Bouix dans son programme, c'est quand même la fin des centrales au charbon et des permis d'exploration des hydrocarbures. Sauf qu'il a voté contre les mesures de bifurcation écologique qui ont été proposées. On voit également que la fin du plastique à usage unique, il ne l'a pas voté. Nous, on est vraiment pour basculer vers une société qui va vers une prise en compte de l'environnement pour qu'on cesse d'augmenter, enfin qu'on limite en tout cas les dégâts et qu'on suive les conseils du GIEC.
Vous avez mené une politique ces 5 dernières années contre l'environnement, au détriment de l'environnement et du climat?
Ah, pas du tout. Ce qui vient d'être dit est totalement faux. La fin du plastique à usage unique, elle a été passée dans la loi. Aujourd'hui, tous ces petits couverts en plastique, toutes ces pailles qui nous polluaient la vie, aujourd'hui, elles ont disparu. Donc ça a été quelque chose de fait. Et puis on a effectivement fermé nos 4 centrales à charbon. Et puis par ailleurs, la fin des hydrocarbures, c'est une réalité aujourd'hui pour la France. Donc nous, qu'est-ce que l'on a fait concrètement? Eh bien, on a d'abord mis 30 milliards dans la transition écologique grâce au plan de relance. Faut être conscient qu'aujourd'hui, ce plan de relance, c'est d'abord mieux isoler les logements. C'est aussi 650 000 logements qui ont été ainsi rénovés. Donc ça, c'est des choses concrètes dans le quotidien des Français. Et puis, c'est des primes à la conversion qui ont été proposées aux Français. C'est ainsi 1 million de primes à la conversion. Donc cette transition écologique, comme son nom l'indique, on y rentre progressivement. Mais oui, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Et demain, nous souhaitons consacrer bien plus, 50 milliards par an, à cette transition écologique, là où, rappelons-le, Europe Écologie Les Verts, dans son programme en 2017, n'y consacrait que 5 milliards.
Est-ce que le président de la République et sa majorité en ont fait assez pour le climat ces 5 dernières années, notamment pour tenir les engagements que la France avait pris lors de la fameuse COP21 de Paris?
Alors, bien évidemment, on n'en fera jamais assez. Il faut faire plus. Mais plus, ça veut dire avoir cette capacité à intervenir sur toutes les strates de notre pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre Premier ministre va être en charge de conduire la transition écologique à la fois par collectivité, région, département, commune, intercommunalité, mais aussi la conduire secteur professionnel par secteur professionnel et être méthodique dans cette transformation.
Valérie Harel.
Oui, alors, c'est étonnant ça quand même, parce que j'avais cru remarquer, enfin, on m'avait laissé entendre que le gouvernement Macron avait été quand même condamné pour son inaction climatique. Donc je suis très étonnée que des mesures pleuvent tout d'un coup. Bon, je pense que ce sont des effets d'annonce, mais en tout cas, il y a 5 ans de perdu avec ce mandat. Et il y a une confiance qui est perdue, évidemment, pour les jeunes. Les jeunes ne peuvent pas avoir confiance
Ils se sont mobilisés pour le climat, ces jeunes, peut-être davantage d'ailleurs que dans les urnes dimanche dernier.
Ah oui, c'est un sujet de préoccupation majeur, le climat pour les jeunes. C'est leur avenir. Et je pense que des parents et des grands-parents sont extrêmement inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Enfin, cette semaine, vous l'avez dit tout à l'heure, les températures records qu'on atteint, c'est pas juste une petite passe. Ce sont des événements récurrents et il va falloir vraiment œuvrer. Alors, j'entends 650 000 logements rénovés, isolés depuis 5 ans, mais c'est ridicule. C'est 700 000 par an qu'on veut nous. C'est réellement un plan massif de suppression des passoires thermiques. Il faut y aller à fond, là. C'est pas des mesurettes comme ça.
C'est ce qu'on fait. Hein. Vous venez de le dire. Vous venez de dire le chiffre que j'ai annoncé.
650 000 en 5 ans, je suis désolée.
Non, c'est 650 000 par an. On a mis en place cette prime à la conversion. Aujourd'hui, il reste 4 millions de logements à isoler. Ce sera fait d'ici la fin du prochain quinquennat. Et puis par ailleurs, puisque vous parlez d'effet local, rappelons aussi la mise en place du zéro artificialisation net. Le zéro artificialisation, c'est justement lutter aussi contre l'urbanisation galopante qui a pu se faire parfois sur nos côtes, et puis qui a été responsable aussi des difficultés dans l'absorption des pluies et qui explique parfois le ruissellement auquel on assiste lorsqu'il y a des orages importants.
Aujourd'hui, on voit bien la question énergétique, elle est cruciale. Question simple à tous les deux, le nucléaire, ce n'est pas un petit sujet dans notre région, pas un petit sujet sur ce territoire. Il y a des gens qui vivent ici, mais qui travaillent dans le Nord Cotentin, dans cette filière. Le nucléaire, donc, stop ou encore, Bertrand Bouix?
Le nucléaire a toute sa place dans la politique énergétique de la France. On a prévu de construire 6 nouvelles centrales. C'est la meilleure façon aujourd'hui...
6 EPR.
C'est exactement la meilleure façon aujourd'hui d'avoir une électricité décarbonée la moins chère. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à la France de tirer son épingle du jeu en Europe sur le prix de l'électricité. Mais bien évidemment, cette politique énergétique, elle doit s'accompagner du renouvelable, parce que mettre en place des centrales nucléaires, ça prend du temps. Et pendant cette durée où ces centrales sont construites, eh bien, il faut multiplier par 10 le photovoltaïque. C'est l'objectif aujourd'hui clairement affiché. C'est également devenir leader de l'hydrogène vert. Et c'est également poursuivre la politique sur l'éolien offshore, avec bien sûr la mise en place de réelles concertations dans l'implantation de ces parcs.
Valérie Harel, votre position sur le nucléaire, on voit bien qu'entre communistes et insoumis au sein de la NUPES, tout le monde n'a pas tout à fait la même vision des choses.
Non, bah oui, nous on est ouvert au débat. Enfin, c'est bien qu'on puisse avoir.
Mais du coup,
avoir
stop
des...
ou encore.
Alors, pour ma part, le nucléaire, c'est une non-réponse à l'urgence climatique. Moi, j'aimerais bien savoir dans combien de temps elles vont être construites ces centrales ou ces mini-centrales qui sont même pas encore au point. Donc, non seulement ça coûte cher, c'est long. C'est long à mettre en œuvre, c'est long à construire. Et puis, reste toujours le problème des déchets. On en fait quoi des déchets? Quand on veut aussi être indépendant, on sait bien que c'est un vrai problème, l'indépendance énergétique. On le voit en ce moment avec la guerre en Ukraine. Donc, aller récupérer des matériaux dans des pays comme le Niger, qui sont des pays extrêmement pauvres, et à un moment donné, il va falloir aussi payer les gens normalement dans ces pays-là pour l'extraction de l'uranium. Est-ce qu'on peut continuer à polluer des pays, à se moquer des gens qui sont loin de chez nous, parce que nous, on a besoin de construire des centrales nucléaires? Et est-ce que c'est pas un peu également risqué d'aller récupérer de l'uranium au Kazakhstan, ou enfin dans des régions qui sont à risque du point de vue de l'indépendance? Moi, je pense que le mieux, c'est quand même l'éolien couplé au solaire. C'est quand même la plus grosse partie de la solution. Et vous ajoutez à ça une grosse économie d'énergie avec l'isolation des bâtiments, l'arrêt des ventes des voitures les plus énergivores comme les SUV. On va pouvoir y arriver, mais il faut s'y mettre. Hein.
On a appris hier que les travaux...
L'énergie solaire et l'énergie éolienne, c'est de l'énergie, mais par intermittence. Donc on a
pas
besoin
en mer,
de produits...
Pas en mer.
On a, même en mer. La différence entre l'éolien terrestre et l'éolien en mer, c'est que la rentabilité n'est pas la même. On est sur une efficacité de 70 à 90% sur la mer et de 35% sur la terre. En attendant, l'éolien qu'il soit sur terre ou sur mer, reste une énergie intermittente. Donc on a besoin aujourd'hui de cette énergie nucléaire en complément.
On a appris hier que les travaux de l'EPR de Flamanville étaient entrés dans la dernière ligne droite, c'est en tout cas ce qu'affirme EDF. La construction de cette EPR cumule déjà presque 12 ans de retard et près de 10 milliards d'euros de surcoût. On va au bout de cette construction, Bertrand Bouix ?
Moi, je vous pose une question. Aujourd'hui, on a un défi climatique qui est devant nous. Ce défi climatique, il nécessite d'agir vite. L'énergie nucléaire, il ne faut pas en faire un dogme. Par contre, dans l'urgence, c'est la réponse la plus rapide que l'on peut trouver face aux enjeux. Je voudrais juste rappeler que ce qui a permis de sortir des milliards d'individus de la pauvreté, c'est justement une énergie peu chère. Et aujourd'hui, on a des besoins justement énergétiques qui augmentent.
Donc on va au bout de cette EPR de Flamanville.
Eh bien, il faut continuer effectivement cette construction et développer ces centrales nucléaires.
On parle d'une capacité à charger le combustible à l'été 2023 avec une production d'électricité sur le réseau en fin d'année prochaine. Greenpeace assure que le calendrier est irréaliste. Si vous êtes majoritaire demain à l'Assemblée, Valérie Arel, vous proposez quoi ? On arrête de construire cette EPR à Flamanville qui fait travailler, y compris des gens ici.
Bah, en tout cas, il va falloir réfléchir à comment on en sort de ce nucléaire. On ne peut pas continuer à leurrer les gens sur le fait que on va pouvoir continuer d'aller extraire de l'uranium à l'autre bout du monde. Non, il faut être réaliste, il faut prendre ses responsabilités, il va falloir qu'on soit autonome du point de vue énergétique. Donc non, c'est comment on va recréer des nouveaux métiers dans cette bifurcation énergétique, changer de paradigme et aller vers des énergies dont on ne va plus dépendre pour les matériaux.
Vous avez tous les deux parlé.
Vous savez, l'Allemagne, elle a mis en place cette politique dans laquelle elle s'est passée du nucléaire. Résultat, aujourd'hui, c'est un constat d'échec. Elle commande son électricité en France et c'est elle qui émet par ses centrales à charbon le plus d'effets de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, cette politique, si on veut mettre rapidement en place des mesures qui vont nous permettre de faire face aux défis climatiques, on a besoin d'une énergie décarbonée. Et aujourd'hui, seul le nucléaire est capable de nous le permettre très rapidement.
Vous avez tous les deux parlé d'éolien. C'est une question qui agite le territoire alors que les projets de parcs en mer au large de nos côtes se multiplient, aux grandes dames d'ailleurs du monde de la pêche. Et alors que dans l'intérieur des terres, depuis une vingtaine d'années, le bassin est aussi convoité par de nombreux promoteurs éoliens. Des éoliennes, ici, en mer ou sur terre, il en faut plus, il en faut moins. Bertrand Bouix.
Alors sur l'éolien, ma position a toujours été claire. Je suis partisan de l'éolien, qu'il soit en mer ou en terre, sur terre. Par contre, je me suis toujours opposé au mitage terrestre de l'éolien.
Donc ça veut dire qu'on arrête d'en mettre 4-5 par-ci, par-là.
C'est ça, on arrête en fait le saupoudrage. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de remettre en place de véritables concertations sur ces éoliennes. C'est la raison pour laquelle, dans la loi Climat et Résilience, on a défini des outils qui permettent de zoner ces éoliennes avec des conditions d'implantation. Et puis sur l'éolien en mer, il n'y a pas d'objection sur le fond, mais là encore, il faut tenir compte.
Ah bah il y a au moins l'objection des pêcheurs et ça compte.
Bien sûr, et ça j'ai interpellé la ministre de l'époque Barbara Pompili et la ministre de la mer pour avoir un moratoire sur les futurs parcs parce qu'on a besoin de tenir compte de la situation de ces pêcheurs qui ont été par ailleurs impactés par le Brexit. Ça fait beaucoup aujourd'hui pour eux et il faut entendre cette revendication qui est portée. Et moi je l'ai accompagnée. Il ne s'agit pas d'empêcher le développement des parcs, mais à minima d'avoir ce retour d'expérience à la fois sur la navigabilité dans les parcs, mais aussi sur son impact sur la pêche.
Valérie Arel, j'imagine que vous êtes favorable à plus d'éolien. Vous voyez bien que ça pose des problèmes aux pêcheurs. Vous voyez bien qu'il y a des riverains à chaque fois que des projets se développent qui se disent bah, « l'éolien c'est bien, mais pas à côté de chez moi ». On fait comment ?
Oui, c'est parce que c'est très très mal expliqué. Il y a pas de concertation. Enfin, les seules réunions de concertation, ce sont des réunions descendantes. On indique aux gens voilà ce qui va se passer. Non, il faut que les citoyens et les citoyennes puissent s'emparer de ces problématiques-là, qu'ils puissent travailler sur des sujets comme ils l'ont fait sur le climat, et ça sera mieux accepté de cette façon-là.
Ça veut dire quoi ? comité consultatif citoyen pour vous ?
Comité consultatif, mais pas seulement, c'est être partie prenante. Quand vous avez des municipalités avec des projets citoyens qui de concert, travaillent pour avoir de l'énergie moins chère et durable, il y a des projets citoyens qui sont possibles. On voit que c'est en train d'émerger et c'est très vite amorti. Donc, je pense que ces solutions-là, il faut les mettre en avant plutôt que d'agiter des chiffons rouges sur des problématiques en mer. Moi, je pense que le problème des pêcheurs, c'est qu'ils n'ont pas encore une ligne claire sur l'indemnisation. Il y a un fonds d'indemnisation qui est prévu, mais il y a peu d'informations qui leur est donnée, et c'est de ça dont ils se plaignent. Ils n'ont pas de visibilité sur l'indemnisation dont ils vont faire l'objet sur ces zones, ces anciennes zones de pêche qui vont être effectivement dédiées à l'éolien en mer. Maintenant, je voudrais revenir quand même sur ce qui a été dit sur le mitage. Moi, je suis bien d'accord avec ça, mais il faudrait peut-être fournir à un moment donné une cartographie précise des possibilités de mettre en place de l'éolien. Les mers, pour le moment, n'ont rien reçu. Enfin, c'est un problème aussi qu'on puisse pas avoir une visibilité sur le territoire des endroits, que ce soit pas des choses qui soient travaillées avec les élus locaux. Je trouve que c'est quand même regrettable.
Je voudrais maintenant juste préciser quand même,
Bertrand Bix, pour conclure, avant d'aborder un autre thème.
Cette cartographie, elle avait été supprimée par la majorité précédente, dans laquelle il y avait justement les écologistes. Et donc c'est nous qui l'avons réintroduite, cette possibilité de cartographier, grâce à la loi Climat et Résilience. Et cette cartographie, elle arrive. Par ailleurs, les pêcheurs, ils ne demandent pas à être indemnisés, ils demandent simplement à vivre de leur travail.
Je voudrais maintenant qu'on aborde une toute autre question, celle du pouvoir d'achat. Elle préoccupe les habitants de ce territoire, comme tous les Français. Beaucoup, disons-le clairement, n'y arrivent plus. Les prix des carburants ont explosé, les prix des produits alimentaires aussi. L'inflation est au plus haut dans notre pays depuis 37 ans et la croissance passe au rendez-vous. Face à ce constat, on fait quoi ? Qu'avez-vous à dire à ces gens qui sont vraiment dans le rouge aujourd'hui, Bertrand Bouix ?
Bien évidemment, le pouvoir d'achat, c'est une question aujourd'hui essentielle dans le quotidien des Français. Vivre dignement, c'est une question essentielle pour chacun d'entre nous. Et donc moi, je pense que déjà, la première chose, c'est mettre fin au chômage de masse. Et c'est faire en sorte que chacun puisse vivre de son travail. Ensuite, sur l'action sur le pouvoir d'achat...
Avec 0,2% de croissance, comme il est prévu au deuxième trimestre 2022, oui, alors, on ne crée pas d'emploi.
Vous savez bien, Monsieur Caillard, que la croissance, elle se détermine aussi sur l'année. Elle ne se détermine pas non plus que trimestriellement. Donc aujourd'hui, on prévoit sur l'année une croissance à 4%. Donc bien évidemment que le sujet de l'inflation reste présent. Et ça, il faut
attendez,
le prendre en compte.
Pas de croissance au premier trimestre, une croissance, une prévision de croissance à 0,2 au deuxième, et vous nous dites qu'il y aura une croissance de 4% à la fin de l'année.
C'est ce que le ministre de l'économie a annoncé, je reprends simplement les propos de Bruno Le Maire.
Donc à 4%, on est d'accord qu'on crée de l'emploi.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on s'engage sur la diminution du taux de chômage. Donc bien évidemment que la question du pouvoir d'achat, elle reste sur la table, elle reste sur la table sur les conditions du prix du gaz et d'électricité. C'est pour ça qu'on a mis en place un plan résilience. Mais cette question, on l'a aussi traitée tout au long du mandat, en supprimant notamment la taxe d'habitation, en revalorisant de 100 euros le minimum vieillesse. Donc toutes ces mesures, elles ont été essentielles. Et puis c'est rappelé aussi le plan de relance de 100 milliards. Ce plan de relance, il ne faut pas oublier, il a sauvé des emplois, il a sauvé des entreprises. Et donc en sauvant des emplois et des entreprises, on a sauvé les familles. Et donc on a aussi préservé du pouvoir d'achat. C'est comme si en fait ce qui avait été fait sur cette phase du Covid, où le risque était énorme sur les entreprises, avait disparu. Mais non, on a sauvé en fait le pays à ce moment-là.
Valérie Arel.
Vous avez tellement sauvé le pays qu'il y a quand même tout cet argent, ces 240 milliards d'euros qui ont été versés, qui sont versés aux entreprises depuis la pandémie, il n'y a aucune traçabilité. On ne sait pas il n'y a pas eu de contrepartie de demander, ni par rapport à l'environnement, ni par rapport à l'emploi. Donc, c'est aussi quand même particulier de déverser.
Fallait pas aider les entreprises durant la crise
mais
Covid.
Faut quand même, bien sûr que si, mais il fallait quand même demander quelques contreparties. On donne pas de l'argent comme ça sans s'assurer que derrière l'emploi est bien maintenu, que l'environnement est bien respecté. Il y a quand même des chartes à respecter.
On fait quoi pour le pouvoir d'achat? On fait quoi pour les gens aujourd'hui déjà, concrètement? Si vous arrivez au pouvoir dimanche soir, vous faites quoi pour ces gens qui gagnent parfois 1 350 € par mois, parfois moins lorsqu'ils sont retraités, et qui constatent avec l'augmentation des prix qu'ils étaient déjà à 10, 20 ou 50 euros il y a 2 ou 3 ans, et qu'aujourd'hui ils sont à moins 10, 20 ou moins 50 euros à la fin du mois.
Nous, on propose d'augmenter le SMIC à 1 500 € net par mois. Et il va falloir également que ça suive au niveau des branches, puisqu'il va falloir renégocier les salaires. Moi, je vais vous donner un exemple typique, puisque je travaille dans le secteur social, une convention, la convention du 15 mars 66. Les plus basses grilles sont à moins du SMIC. Donc déjà que le SMIC, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, vivre avec le SMIC, ce soit facile, mais quand vous êtes sur des grilles de salaire à moins du SMIC, et que l'employeur est obligé de procéder à un rattrapage pour vous amener au niveau du SMIC et que ça vous laisse travailler de cette façon-là pendant des années sans augmentation de salaire, c'est problématique. Effectivement, on ne peut pas vivre aujourd'hui avec un SMIC aussi bas, avec des salaires aussi bas. Vous savez combien gagne une éducatrice spécialisée ou un assistant social aujourd'hui ?
Non.
En début de carrière, c'est 1 350 € net. Écoutez, pour un métier aussi essentiel que ça, on a été considérés comme des essentiels, mais apparemment, nos salaires sont optionnels. Enfin, en tout cas, la revalorisation de nos salaires sont optionnels.
Donc, je comprends bien la revalorisation des salaires. Dans votre programme, il y a aussi la notion de blocage des prix. On est d'accord là-dessus?
Tout à fait. Ça s'est fait il y a 40 ans et ça, c'était pas une révolution. Donc, c'est possible de le remettre en œuvre. Il va falloir bloquer les prix pour que les...
De combien de produits? Des produits de première nécessité?
Alors, les produits de première...
bien plus grand nombre. Alors, de produits.
Déjà, il va falloir qu'on parle de l'énergie aussi, parce que les marges des raffineurs ont été multipliées par 5 selon l'INSEE depuis l'invasion de l'Ukraine. Donc, on remarque que Total est en train de se comporter comme un véritable vampire pour les Français et rien n'est fait pour, alors qu'il est le premier responsable du réchauffement, un des responsables numéro un du réchauffement.
Donc blocage des prix d'abord des produits pétroliers.
Oui, blocage des prix parce que les gens, s'ils peuvent plus mettre de carburant pour aller travailler, ça va finir par poser problème. Il va falloir aussi, puisqu'on est quand même dans une circonscription, on peut parler de ce qui est proche de nous. Il y a un problème de transport en commun dans notre secteur. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire on ne peut pas se déplacer. Des personnes âgées ou des personnes qui travaillent mais qui n'ont plus les moyens de mettre du carburant dans leur voiture, il n'y a pas pour autant de transport en commun de déployer. Donc si on veut que ces gens-là continuent de vivre dignement, il va falloir forcément éviter que Total puisse émarger à ce point-là sur la misère des gens. C'est quand même normal de pouvoir bloquer au moins ces produits-là. Nous, en fait, on est très clairement à la NUPES pour la surtaxation des super-profits. Surtaxation des super-profits de toutes ces entreprises de monopole ou d'oligopole dont on est client aujourd'hui obligé, comme Total, Engie, Veolia.
Je fais tourner la parole pour respecter les temps de parole. Valérie Harel, on a bien compris. Augmentation des salaires, revalorisation de ces salaires, blocage des prix sur un certain nombre de produits et surtaxation des plus grandes fortunes de ce pays. On va le dire comme ça. Est-ce que cela vous convainc, Bertrand Bix?
Alors,
est-ce que cela vous va comme programme?
Sur la revalorisation du SMIC, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Maintenant, le revaloriser de 200 €, ça aura un impact immédiat si ce n'est pas négocié avec les entreprises sur l'emploi. Clairement, ça aura un impact aussi sur la grille salariale, parce que ceux qui seront augmentés au SMIC, ceux qui sont au-dessus en termes de salaire, réclameront aussi des augmentations. Donc tout ça, ça aura un impact sur l'entreprise et donc sur le chômage. Il faut le prendre en compte. Donc oui, il faut revaloriser, mais il faut négocier avec...
Alors que Valérie Harel se sert de l'eau, ne vous étonnez pas.
Avec les entreprises. Et puis, au-delà de revaloriser le SMIC...
Blocage des prix, ça vous convainc ?
Alors, blocage des prix, ben non, parce qu'on sait que bloquer les prix, ça a une conséquence immédiate.
C'est ce que vous faites sur l'énergie en ce moment, Bertrand Bouygues.
Non, on ne bloque pas les prix. On fait, en fait, on rétrocède 15 centimes.
Oui, je parlais voilà. Du bouclier
oui,
tarifaire.
Mais un bouclier tarifaire...
Sur l'électricité et sur le gaz. Attention. On devrait tous payer 50% de plus notre électricité, on ne paye que 4% de plus notre électricité.
Oui, parce qu'on limite une augmentation et parce que la France produit de l'électricité. Mais bloquer les prix au niveau national sur des produits essentiels, c'est autre chose. Ça veut dire que là, on agit concrètement sur des activités économiques différentes, sur des entreprises, et on sait qu'aujourd'hui, avec une augmentation du prix des matières premières, eh bien les entreprises elles vont se trouver prises entre le marteau et l'enclume, et que la conséquence directe d'une politique de blocage des prix, c'est le risque de fermeture d'un certain nombre d'entreprises.
Je voudrais vous poser deux questions rapides. Marine Le Pen et son représentant sur le territoire, Philippe Chaperon, ont mis en avant dans cette campagne l'idée d'une baisse de la TVA pour redonner simplement du pouvoir d'achat aux consommateurs. Bonne ou mauvaise idée ? On baisse la TVA ou pas ? Valérie Harel.
La TVA, c'est un impôt qui est pas forcément très juste. En tout cas, sur les produits alimentaires, il faudrait voir comment ça peut s'appliquer. Mais la TVA, ça s'applique à tout le monde de la même façon. Et c'est ça qui est injuste, c'est que Monsieur Bouygues, par exemple, sur son kilo de tomates, il va avoir la même TVA que moi, alors qu'on n'a pas le même salaire.
Bertrand Bouygues.
Ben je suis pour la première fois d'accord avec Valérie Harel.
Ah, donc c'est on baisse la TVA ?
Non, je dis que baisser la TVA, mauvaise idée.
D'accord. Parce que c'est un impôt injuste.
C'est de baisser la TVA, c'est une fausse bonne idée. Parce que le prix d'un produit, il ne dépend pas de sa TVA. On l'a vu dans la restauration, quand on a baissé la TVA, elle n'a pas profité aux consommateurs. Et donc, baisser la TVA, c'est tous les Français qui vont en bénéficier. Donc, il vaut mieux sectoriser des mesures comme ce que l'on a fait avec le chèque inflation pour aller sur les personnes qui en ont besoin. Et puis par rapport au blocage du prix, c'est la même chose. Un blocage de prix, ça s'applique à tout le monde. Et donc il y a des gens qui n'ont pas besoin aujourd'hui d'avoir un prix bloqué.
J'aurais été étonné que vous me parliez d'une baisse de la TVA, Bertrand Bouygues, parce que Jean-Luc Mélenchon accuse l'actuelle majorité d'avoir un agenda caché, un agenda qui prévoirait l'augmentation de la TVA pour financer son programme. C'est vrai ou pas ? Est-ce que si vous êtes réélu, si vous obtenez une majorité à l'Assemblée, on va tous payer une TVA plus importante ?
Ben non, on est la seule majorité qui s'est engagée pour ne pas baisser pour ne pas augmenter les taxes ou les impôts. Donc non, ça c'est des bruits de couloirs qui sont infondés.
Valérie Harel, agenda caché de l'actuelle majorité ?
Eh bien, l'avenir nous le dira.
On marque une nouvelle pause. On vient dans un instant, on parlera avec vous, madame, monsieur, des services publics. Ça concerne les gens de ce territoire.
Radio VSM, émission spéciale, législative 2022.